qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple des bidonvilles.
Ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
Les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Nous regardons acquis sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la Delphine, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Cette troisième émission de En bas à gauche. Vous écoutez cette émission sur les ondes de Radio Centreville 102.3 FM. Et aujourd'hui au menu, nous aurons une entrevue avec la coalition Justice pour les victimes des bavures policières. Et ensuite, nous aurons une entrevue sur la résistance minière avec la coalition Abia Jala. Et nous serons aussi, nous parlerons aussi à propos de la conférence boycott des investissements et sanctions contre l'apartheid palestinien. Et nous serons quelques points culturels. Merci et bienvenue.
Nous sommes en compagnie de François Ducanal de la coalition du 22 octobre ou coalition Justice pour les victimes de bavures policières. François, pourquoi la date du 22 octobre?
Ça fait maintenant la 15e année que c'est la journée nationale de protestation aux États-Unis contre la brutalité policière. Donc, nous autres là-bas, ils manifestent, entre autres, cette année dans 16 villes. Et les revendications sont pas mal les mêmes qu'ici, c'est-à-dire contre les bavures policières, le secret qui entoure ces bavures, contre le profilage racial, le profilage social, contre les itinérants, contre la répression contre les jeunes, par exemple dans les écoles secondaires, il y a plusieurs cas de les policiers ont utilisé des tasers contre des jeunes, et aussi les abus des policiers des frontières. Donc ici, on voulait aussi faire une journée avec les familles de victimes, et donc on a décidé de faire ça autour du 22 octobre aussi.
Comment s'est constituée la coalition, ou d'où est née l'initiative à Montréal d'organiser une telle journée?
C'est suite au forum qu'il y a eu contre la violence policière et l'impunité au mois de janvier dans le quartier Parc Extension à Montréal. Il y a eu un panel qui réunissait plusieurs familles, plusieurs membres de familles de victimes de bavures policières durant le forum. Et donc, suite à cet événement-là, il y a eu des discussions avec les familles, puis ils ont exprimé le désir de se rencontrer entre eux autres. Et suite à ça, est venue l'organisation du forum, qui est principalement les familles avec leurs alliés. Cette année, on a 6 familles de différentes victimes qui sont réunies avec nous pour cette journée du 22 octobre. Il y a, entre autres, des membres de la famille de Freddy Villanueva, qu'on sait qu'il a été tué par balle en 2008 à Montréal-Nord. Il y a la famille de Kilem Registre, qui, lui, a été tué avec 6 décharges de taser gun en 2007 dans le quartier Saint-Michel. Il y a la famille de Mohamed Anas Benis, qui a été tué par balle dans 2005 à Côte-des-Neiges. Il y a aussi une ancienne collègue de travail, en fait, de Claudio Castagneta, qui a été tué, lui, dans la ville de Québec, aussi en 2007, avec un taser. Enfin, il y a la fille de Ben Mattson, un homme qui a été battu à mort par des policiers de Vancouver en 2004. Et Bridget Tolley, qui est la fille de Gladys Tolley, une femme autochtone qui a été frappée par une voiture de la SQ en 2001 dans la réserve de Kitiganzili, près de Maniwaki. Donc ça, c'est les 6 familles qui, cette année, organisent avec nous. Et donc, nos revendications tournent autour des revendications des familles.
Est-ce que les familles ont obtenu justice?
Malheureusement, non. C'est pour ça qu'on dénonce également les bavures, mais aussi l'impunité policière, parce que dans la majorité des cas où des policiers tuent des citoyens, il y a à peu près jamais d'accusations même qui sont déposées contre les policiers. Et quand il y en a, très souvent, ils sont acquittés.
J'imagine qu'il ne s'agit pas seulement de cas isolés. Est-ce qu'il existe des données sur le nombre de personnes assassinées par la police, que ce soit en Amérique du Nord ou plus spécifiquement à Montréal?
Oui, il y a des données. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est assez difficile d'avoir accès à ces informations-là parce que le gouvernement et la police font tout ce qui est dans leur pouvoir pour garder ces informations-là le plus secrètes possible. Donc, c'est beaucoup à travers les médias et des recherches faites par des militants qu'on a des statistiques à ce niveau-là. Mais on sait, par exemple, aux États-Unis, la coalition du 22 octobre ont un projet qui s'appelle le Stolen Lives Project, donc le projet des vies volées. Et ils ont documenté 2000 cas de bavures policières aux États-Unis juste dans les années 1990. Mais au Québec, au Canada aussi, évidemment, les chiffres sont assez élevés. Par exemple, juste pour ce qui est des morts liées au taser, en Amérique du Nord, il y a plus de 500 cas déjà. Là-dessus, il y en a 29 au Canada. Et à Montréal, par exemple, le COBP, le collectif opposé à la brutalité policière, a documenté 63 morts depuis 1987, juste à Montréal. Puis si on regarde au niveau plus large au Québec, on sait qu'il y a plus de 300 personnes qui ont été soit gravement blessées ou tuées par la police au Québec depuis 1999. Et là-dessus, on parlait d'impunité tantôt. Sur ces 300 cas, il y a seulement 2 policiers qui ont été accusés et les 2 ont été acquittés. Juste si on regarde ces 2 dernières années au niveau du Québec, il y a déjà, depuis la mort de Freddy en août 2008, il y a déjà 60 personnes qui ont perdu la vie ou été gravement blessées par des policiers au Québec. Donc, c'est pour ça que c'est un problème qui continue malheureusement et qu'il faut dénoncer. Puis je pense que c'est bon cette année de voir les familles qui se réunissent ensemble pour qu'on voit que ce ne sont pas des cas isolés. le problème des bavures policières et de l'impunité, mais c'est justement que ça se perpétue, et donc c'est pour ça qu'il y a autant de cas et autant de familles qui luttent encore aujourd'hui pour la justice.
Face à cette situation, quelles sont les revendications des familles de victimes qui sont organisées dans la coalition du 22 octobre?
En général, ce qu'on veut, c'est la dignité, la justice et la vérité. C'est-à-dire que le but principal de la marche et de la vigile qu'on organise cette année, c'est premièrement de commémorer les personnes qui ont été victimes de bavures policières, mais aussi de soutenir leurs familles par tous les moyens. Donc, les revendications des 6 familles que j'ai nommées tantôt, ça inclut la fin de la brutalité policière, la fin de l'impunité policière également, la fin du profilage racial, du profilage social et du profilage politique, donc les différentes formes de discrimination, l'accès rapide à toute l'information pour les familles. Quand il y a des bavures, souvent la police ne dit rien en attendant l'enquête et tout ça, et donc les familles ont toujours des questions, veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé à leurs proches. Donc ça, c'est une demande. Également, que des accusations criminelles soient déposées contre les policiers qui ont tué une personne. La tenue d'enquête indépendante quand une personne est tuée par la police. On parle surtout d'enquête publique. Dernièrement, en fait, cette semaine, il y a la Cour suprême du Canada qui a décidé qu'il ne voulait pas entendre la requête, l'appel de la Fraternité des policiers qui voulait faire annuler l'enquête publique dans l'affaire Michel Berniquez, un homme qui est mort en 2003 suite à son arrestation à Montréal-Nord. Et donc, une enquête publique du coroner avait été ordonnée dans l'affaire Berniquez, mais la Fraternité des policiers et policières de Montréal, donc le syndicat des policiers montréalais, a fait une requête en cour supérieure pour faire annuler l'enquête publique. Et donc, après plusieurs années, ça s'est rendu jusqu'en cour suprême, mais finalement, la famille Berniquez aura son enquête publique. Et ça va aussi jouer pour l'affaire de Mohamed Anas Bénis, parce que dans cette affaire-là aussi, la fraternité contestait la tenue de l'enquête publique. Alors, après bientôt 5 ans, la famille Bénis, elle aussi, pourra avoir son enquête publique. Et finalement, il y a l'application des recommandations du coroner, parce qu'on sait qu'il y a déjà eu plusieurs enquêtes du coroner, plusieurs enquêtes sur, par exemple, les relations entre la police et les communautés, les minorités culturelles dans les années 90. Mais ces recommandations, souvent, ça reste sur les tablettes. Donc, pour mettre fin aux abus policiers, ben il faut que le gouvernement prenne ses culottes, si on veut, face au pouvoir des policiers, fasse des changements pour que les policiers arrêtent d'abuser de leur pouvoir et de tuer en toute impunité. Par exemple, dernièrement, il y avait la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal qui avait fait des consultations sur l'usage du taser gun. Dans leurs recommandations, ils disent que les policiers devraient considérer une personne en crise comme une urgence médicale, et pas comme un criminel ou un terroriste. Ils disent que même avant d'utiliser leur taser, ils doivent appeler soit Urgence Santé ou UPS Justice, qui est un groupe d'intervenants qui peuvent intervenir dans des situations de crise. Donc ça, c'est un point important parce que beaucoup de personnes qui se font tuer ou gravement blessées par des policiers, c'est des personnes, en fait, qu'ils appellent à l'aide. Bon, ils sont en crise, des personnes suicidaires, et souvent, ça finit mal. Mais donc, pour le moment, on sait que les policiers continuent d'agir de la même façon, donc il y a beaucoup de changements qui devraient être apportés. La dernière revendication des familles, c'est évidemment la fin de l'utilisation du taser.
Où on peut vous rejoindre? Qu'est-ce que vous organisez le 22 octobre?
Eh bien, le 22 octobre, c'est ce vendredi, on organise une vigile familiale devant les bureaux de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. C'est donc ce vendredi 22 octobre entre 4h et 6h le soir. L'adresse est le 480 rue Guilford, c'est au métro Laurier, sortie Saint-Joseph. Et également, le lendemain, le samedi 23 octobre, on fait une marche commémorative au centre-ville qui commence à 12h30 au coin des rues Guy et de Maisonneuve au métro Guy Concordia. Donc on vous invite tous à venir soutenir les familles qui luttent pour la justice et la vérité. Et je vous invite à venir visiter le site internet de la coalition Justice pour les victimes de bavures policières qui est le www.22octobre.net. J'espère avoir tout le monde en fin de semaine aux événements. Puis également, un autre événement qui est organisé dans le cadre de cette fin de semaine, c'est un show bénéfice qui aura lieu le vendredi 22 octobre au Café K.O. Donc c'est à partir de 9h et les groupes invités sont Micro Armé, Society's, Heavy Sounds, le Grand Slack et Emerical. Donc, on vous attend là-bas aussi, vendredi soir au Café Carré.
Se puede circular entre ellos y no tu pueblo. Esto está hecho de carne y hueso. Siete cuentos, sigo en eso, sin religión. Quiero pa' no ser capaz de aguantar más represión. Mi decisión, una contribución cultural. Una pa' arriba de Montreal, el bueno y el mal.
Just a sign, it's a state of mind that rhymes with what's known to mine, which is rightfully yours. The government laws are behind doors, settling wars by trading blood for all. We nomads are trooping the city crack surface like peeps in the Sudan, getting kicked and pushed back from their own lands by holy hands. Now this holy lands of source bloody hands. See it should really be part of the plan, cause what we want is
la paix, c'est ça seulement mon besoin. Depuis siècle, la chèche on marche on trop loin. Trop haïtien, n'est que venir à dit un rien. Vous rien, de toi mouvement vitérien. Dispo d'inégalité, vive en sérénité, assurer sécurité, vive en fraternité. Rejeté matérialiste, jalousie impérialiste, mal propre qui vous fait réalité.
Haïti, the right to live in peace means freedom. And the right to live in peace means freedom.
Cuba,
the right to live in peace means freedom.
Palestine,
the right to live in peace means freedom.
Israel,
the right to live in peace means freedom.
Chechnya,
the right to live in peace means freedom.
Sudan,
the right to live in peace means freedom.
Russia,
the right to live in peace.
I dream of a place free from hate. I dream of a place where peace remains. I know life ain't easy, and that the music ease me. Go to state of the world, be making me swirl. No mess, keep on moving.
Dressed in a pulsive recorder, a world infested and boarded, the crest of a martyr with a chest vested to slaughter. Unless we confess that we were tested when brought up, we'll bleed in need of order like obsessive compulsive disorder. Suffering, the loveliness hovering, bouncing and shoving and covered in houses, abused spouses, the governing council. Someone's counting bodies, pop time. Start the next revolution, artist blessed. Haria, peace,
art, select. La planète bleue part à la dérive, à voir qui la délivre. Sur ce radeau, y'a plus le vivre, on conjugue plus le verbe vivre. Les illusions nous maintiennent ivres. La télévision grille, nos cerveaux brûlent les pages de tous nos livres. Enfant horrible, enfant horrible, diabolique est le leader du monde libre. Sa tour de magie, ouais. Agite le bâton et pouf, le chat devient tigre. La vague de fatigue et l'impuissance face à ça, ça me gifle la paix.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Vous écoutez cette troisième édition de En bas à gauche. On poursuit avec une entrevue sur la résistance minière avec un représentant de la coalition, Abia Yala.
Exactement. Alors, on est allé ce matin en studio avec Lazare Comforti. Lazare, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de en quoi consiste cette instance de coordination du réseau antiminier Abia Yala?
Ben, pour donner un peu de background, il y a l'industrie minière, en fait,
au monde mondial est dominée par le Canada. Alors, il y a beaucoup de communautés qui font face aux entreprises minières canadiennes un peu partout dans le monde, particulièrement en Amérique latine, et qui se voient affectées d'une manière très, très négative, se voient affecter leur environnement, leur gagne-pain, toute leur activité économique, et donc sont en train de monter une résistance à ces entreprises-là. Et récemment, c'est-à-dire plutôt cette année, en mai, pardon, il y avait une conférence à Toronto qui réunissait plusieurs militants académiques, etc., pour parler justement de l'industrie minière canadienne et de ses effets sur la population du Sud. Et plusieurs des représentants des communautés d'Amérique latine ont lancé un appel, disons, à la société civile canadienne de mieux se coordonner pour mieux appuyer les luttes citoyennes qui se passent dans le Sud. Alors, c'est comme ça que le réseau Abya-Yala a été lancé. Abya-Yala, c'est le nom donné au continent américain au continent qu'il connaissait par le peuple Kuna qui habite dans ce qui est aujourd'hui le Panama, au centre des Amériques. Donc, ce nom-là pour le continent est utilisé par beaucoup de mouvements sociaux pour parler de l'Amérique, de son nom original. Mais en tout cas, ce réseau-là va rassembler plusieurs groupes militants plus radicaux, disons, au Canada, pour mieux coordonner tous nos efforts, nos communications, etc., et pouvoir donner un appui coordonné aux luttes qui se passent sur le terrain ailleurs au monde.
OK, c'est ça. Puis parce que, juste pour nous rappeler un peu, grosso modo, c'est quoi les objectifs qui vont être discutés, en fait, à la réunion qu'on va avoir prochainement, si tu peux nous rappeler les dates?
Ben la réunion aura lieu ce samedi, le 23 octobre à 11h à l'entraide missionnaire, si je me rappelle, l'adresse est 15 de Castelnau, donc juste à côté du métro de Castelnau. Puis on va, c'est juste la deuxième réunion en fait de cette coalition. Alors on est encore en train de former notre mission, notre vision. On a déjà discuté de ça à la dernière rencontre, mais maintenant on va finaliser notre vision, notre énoncé de vision puis de mission, disons, et commencer à vraiment parler de quelles seraient nos actions concrètes qu'on va faire dans le proche futur. C'est-à-dire qu'on c'est encore en pleine formation. Alors, on n'a pas décidé sur grand-chose, mais on est vraiment, ici, c'est la deuxième rencontre, comme je dis, pour faire un bon brainstorm, puis bien clairement parler de ce qu'on veut faire et commencer à penser comment exactement on va le faire.
OK, puis maintenant, pour parler un peu plus de la thématique des minières, justement, il y a une question de résistance contre les activités minières de communautés affectées. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en profondeur de quelle manière sont affectées les communautés puis pourquoi c'est important, cette résistance-là, aux activités minières?
OK, première façon dont ils sont affectés, c'est leur environnement. On parle ici de mines à ciel ouvert. Puis ça, c'est une méthode en fait d'extraction minière qui est très différente de la méthode classique qu'on connaît, qui consiste de creuser des tunnels. Les mines à ciel ouvert, ça c'est quand il y a vraiment pas beaucoup, il y a juste des traces de minerais qui restent dans la terre. Alors on va creuser un immense trou, un cratère qui peut avoir 2 km de diamètre, 500 mètres de profondeur ou plus, et on va transformer toute cette terre là en le mélangeant avec plusieurs produits chimiques, tel la cyanure, pour pouvoir extraire le minerai en utilisant ce procédé chimique. Alors en faisant ça, il y a un énorme montant de poussière qui se retrouve dans l'air. Il y a ces espèces de bassins où on va faire cette extraction chimique qui crée beaucoup de substances toxiques qui peuvent contaminer la nappe phréatique. Donc, la première chose à laquelle les communautés s'opposent, c'est cette espèce de dégradation de leur environnement, souvent de leur gagne-pain, parce qu'on parle, ces mines-là, c'est dans les régions rurales, souvent agricoles. Alors, on va voir la mine vraiment faire concurrence aux paysans pour qui utilisent l'eau là pour pousser leur bouffe. La mine va vraiment concurrencer parce qu'elle utilise une quantité énorme d'eau. On parle des milliers de litres par seconde. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, ben, j'avais déjà parlé, c'est l'aspect économique. Bien sûr, il y en a qui vont perdre leur gagne-pain si c'est dans une zone agricole, mais il y en a toujours d'autres qui vont vouloir accéder au job, disons, qui sont un peu mieux payés dans les mines-là. Et on peut avoir beaucoup de conflits sociaux entre les personnes. Souvent, c'est des personnes, en fait, qui viennent à l'extérieur de la communauté qui est juste à côté de la mine, qui vient d'une ville, une main-d'œuvre spécialisée qui va travailler dans la mine, qui va s'installer dans cette région-là, qui va entrer en conflit avec la population locale qui a ses propres raisons pour résister à la mine. Ou bien, ça va être même des conflits dans la communauté elle-même si on engage les gens de la communauté. On a souvent les hommes qui travaillent à l'extérieur de la maison qui vont dire ben on a besoin du cash, puis qui vont entrer en conflit avec leur propre femme dans leur famille, qui pensent plus à la santé des enfants puis à la qualité de l'eau, etc. Donc ça entre dans ces dynamiques de rôle de genre là, qui sont ben, toujours un peu traditionnels, mais ça les met en conflit direct.
Au niveau des conflits aussi, parfois il n'y a pas, disons, de division entre la vision par rapport aux mines dans les communautés, puis les communautés entières se soulèvent, en fait, résistent contre l'implantation des minières. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi qui se passe dans ces cas-là, par exemple dans le cas d'une communauté autochtone qui refuse carrément l'implantation d'une minière dans sa région?
Ben, il y a plusieurs façons de résister. Tout le monde a fait à sa façon. Puis, il y a des communautés qui ont décidé de bloquer des routes entières pour empêcher les camions d'accéder à la mine. Il y en a d'autres qui ont organisé des référendums pour vraiment, pour utiliser des lois qui existent, qui disent que la population locale doit être consultée, ce qui est rarement fait. Alors, ils vont organiser des assemblées populaires, des forums, des référendums populaires pour vraiment manifester leur opposition. Il y en a d'autres qui vont utiliser une route plus légale si ça existe. Parce que souvent les lois minières sont comme les nôtres, tout est en faveur de la compagnie. Donc il y a plusieurs façons de résister du légal à l'action vraiment directe, bloquer les routes, etc., mettre des chaînes sur les portes de la mine. Et mais dans tous les cas, c'est les communautés qui sont en défense de leur vie, de leur façon de vivre, de leurs moyens de résistance, de subsistance, pardon. Donc c'est une lutte vraiment défensive, primordiale contre une attaque pour le profit.
OK. Pour terminer, est-ce que tu peux nous rappeler quand va être l'événement de la Coordinadora Biayala, en fait l'instance de coordination du réseau anti-mini à Biayala?
Donc, ça va avoir lieu ce samedi, le 23 octobre, 11h du matin à 5h de l'après-midi, toute une journée à l'entraide missionnaire, c'est 15 de Castelnau, juste à côté du métro de Castelnau, ligne bleue. Puis on invite tous les groupes écologistes qui ont travaillé sur l'extraction minière des ressources naturelles au Québec aussi, pour bien faire les liens entre notre résistance québécoise puis celle au sud. Il y a beaucoup à gagner, je pense, à coopérer.
Ben merci beaucoup.
Merci à toi.
Avez-vous reçu votre autocollant Prudence au volant des amputés de guerre? Apposez-le sur votre voiture, votre motocyclette, votre bateau ou votre motoneige. En fait, là où vous désirez véhiculer le message « Prudence au volant ». Commandez-le sans frais au 1-800-250-3030 ou en visitant le site amputedeguerre.ca.
Les conducteurs et les amputés de guerre, de concert pour promouvoir la prudence au volant.
Arc's Notebook, avec Stan Asher et copilote Davin Ryle. Votre départ vous attend chaque samedi matin à destination de la scène locale de théâtre anglais avec escale au film, au festival culturel, le calendrier des activités culturelles et également les critiques de ce qui se joue sur les scènes locales. Tout le monde à bord les samedis de 11h30 à 12h30 avec Arc's Notebook.
Le 14 novembre, au Théâtre Maisonneuve, le Festival du Monde Arabe de Montréal présente les Cowboys Soufis. Des Américains pur laine du fin fond du Texas transgressent les dogmes, galvanisent la foule et électrisent la scène en chantant un islam enjoué et folâtre. www.festivalarabe.com.
Nous représentons la réalité multiculturelle de Montréal. Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
You're in prison, you terrorize with fright, you burn books, criminalize protests, you crack open heads while you wage war against terror, a phony terrorist threat, when all the time, yeah, all the time, the real terrorist, the real threat is you. Basic liberties, trampled our peace signs, hold us all hostage to your police state of mind. No immigrant, no refugee is safe from your assault. Every foreigner, unwhite, is suspect at fault. Your democracy is a sham, your justice unclear. We live in a state of terror behind your bars of fear, while you wage war far and near, yet all the time, the real terrorist, yeah, the real danger is you. Thunderstorm of fear. You sow the panic while you rob, cheat, and smear. You screw the people behind the cloak of national security. And to cover up your crimes, the innocent become guilty. Muslims, Arabs, scapegoated, harassed, charged, imprisoned, deported illegally. Shame, shame on you. When all the time, yeah, all this time throughout your bloody history, the real terrorist, the real danger is you.
Par Rémi qui organise, qui co-organise en fait avec de nombreuses organisations la conférence Boycott des investissements et sanctions. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, bonjour Blondet, merci pour m'inviter.
Alors peut-être tout d'abord, cette conférence s'inscrit dans une campagne là, qui s'appelle donc BDS, qui est une campagne qui est liée, qui existe je pense depuis 2005, qui est une campagne de boycott en soutien aux luttes de résistance en Palestine.
Exact.
Alors, au-delà de cette phrase-là, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les origines de la campagne, etc.?
Bien sûr. C'est donc, le boycott de la campagne de boycott d'investissement, des investissements et sanctions, c'était un appel par la communauté civile palestinienne en 2005, en juillet 9 2005. Puis c'est un appel par à peu près 170 organisations et il appelle au internationalement, partout dans le monde, les gens à joindre cette campagne. Et c'est une campagne de boycott, comme le titre dit, boycott, puis désinvestissement, ça veut dire enlever les investissements en Israël, puis de mettre des sanctions sur Israël jusqu'à que Israël respecte le droit international, puis le droit universel, humanitaire universel. Donc c'est ça, ça fait 5 ans maintenant, puis la conférence est sur cette campagne-là, justement.
Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de pourquoi, à un moment donné, dans la solidarité avec la Palestine, ou pourquoi les luttes depuis la Palestine choisissent le moyen du boycott? En quoi est-ce que ce moyen-là constitue une solution, un appui ou quelque chose d'important dans le contexte? Peut-être aussi nous redonner quelques éléments du contexte actuel.
C'est ça. Ben, historiquement, c'est pas la première fois que les Palestiniens ont choisi le boycott comme comme tactique pour lutter contre la colonisation de la Palestine. Si on regarde depuis 1936, ils ont fait un grève général, même avant la création d'Israël. Mais dernièrement, ils ont trouvé qu'ils étaient inspirés en fait par l'Afrique du Sud. Et ils ont trouvé que les gouvernements internationaux ne font rien. Ils ont essayé plusieurs façons de résister contre la colonisation et l'occupation. Et ils étaient inspirés par l'Afrique du Sud durant le système d'apartheid. Ils ont choisi de prendre ce chemin-là, et c'est de demander au monde partout, aux gens et aux organisations, aux syndicats, aux artistes, aux académiques, de refuser de collaborer ou de boycotter le système d'apartheid israélien jusqu'à temps qu'ils prennent tout leur droit humain et le droit international dit. Donc c'est ça. Donc c'est une façon de d'être en solidarité avec les Palestiniens et d'essayer de mettre un peu de pression sur Israël pour qu'elle change sa politique en face des Palestiniens qui, c'est ça. Est-ce que ça répond à la question?
Mais oui, mais quand on parle de boycott, peut-être plus précisément, qu'est-ce qu'on veut dire par un boycott? Un boycott, c'est aussi public. Je comprends qu'il y a des volets économiques, mais que c'est pas seulement le volet économique, c'est aussi culturel, artistique.
Exactement. Donc, quand on dit boycott, les gens toujours pensent à « Oh, je vais arrêter d'acheter des produits israéliens ». Mais c'est pas seulement ça. C'est un boycott de plusieurs façons. Donc, par exemple, même en Afrique du Sud, c'était la même chose. Donc, les artistes sont appelés à ne pas performer, par exemple, en Israël, parce que comme ça, ils vont comme exprimer leur désaccord avec la politique d'Israël. Donc, ça, c'est une façon de boycott. L'autre façon, c'est comme les académiques, par exemple. Le boycott, ça veut dire pas qu'on boycotte les académiques israéliens. Ça veut dire que les académiques comme au Canada ou au Québec, ils refusent d'être dans une conférence organisée par le gouvernement israélien ou financée par le gouvernement israélien. Donc ça, c'est notre façon de boycott. Le désinvestissement, le D, donc BDS, le B c'est le boycott, le D c'est désinvestissement. Ça veut dire que s'il y a un syndicat qui a un système de pension, par exemple, et elle investit dans des compagnies qui construit des colonies, par exemple, en Palestine, ou ils supportent des compagnies qui supportent l'occupation ou l'apartheid. Des investissements, ça veut dire je n'investis pas dans ces compagnies. Donc, ça, c'est le D. Puis, le S, dans BDS, c'est la sanction. Et ça, l'étape, ça, c'est plus les États, les gouvernements vont prendre des décisions de couper leurs relations avec Israël ou d'arrêter de faire des échanges économiques, par exemple. Et au Canada et le Québec, par exemple, il y a des accords entre Israël et Québec et un accord entre Israël et Canada, par exemple. Et c'est, par exemple, la sanction va, ça veut dire qu'on va arrêter les échanges économiques. Et, c'est ça. Donc, c'est plusieurs techniques, c'est plusieurs tactiques, ça inclut beaucoup de choses. C'est pas juste de ne pas aller de pas acheter des produits israéliens. C'est pas seulement ça. C'est un peu plus complexe.
Ouais. Et justement, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de comment va la campagne dans le monde? C'est une campagne qui est internationale. Quelques exemples de réussite aussi, puis d'avancée dans cette campagne-là?
Oui, dans le monde, il y a plusieurs succès. Si on pense, par exemple, en Europe, après l'incident de flotelles, quand ils ont attaqué les bateaux qui prenaient des aides humanitaires à Gaza, plusieurs artistes comme Elvis Costello et plusieurs d'autres artistes, ils ont décidé de ne pas aller en Israël. Donc, ils ont dit, moi, je vais canceller mon concert et je ne veux pas performer. Dernièrement, justement hier, un directeur britannique connu, je me rappelle pas le nom maintenant parce que ça vient d'arriver hier, donc il a aussi dit que je veux pas aller assister à un festival en Israël à cause de leur politique contre les Palestiniens. Donc ça, c'est une façon. D'autre façon, il y a aussi des boycotts contre des produits. Donc c'est ça. Donc la campagne commence à avancer. On était un peu dans une période d'éducation, on va dire, parce que les gens ne savent pas beaucoup qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais maintenant, on a passé un peu à l'action. Puis justement, cette conférence qui commence vendredi, c'est pour être plus à l'action maintenant, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est ça.
Donc justement, ça commence vendredi avec une conférence grand public, mm-hmm. mais il y a aussi toute une conférence peut-être plus spécialisée avec beaucoup plus de contenu toute la fin de semaine à l'UQAM. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la programmation?
C'est ça. Donc la conférence commence vendredi 22 octobre, ce vendredi à 7h. Il y a le panel d'ouverture. Donc ça, c'est un événement public, donc tout le monde peut aller, pas nécessairement juste les gens qui veulent assister à toute la conférence. C'est un événement public. Puis dans cette panel d'ouverture, on va avoir Omar Barghouti, qui est un membre fondateur de la campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'Israël et fondateur du boycott du BNC. BNC, c'est Boycott National Committee en Palestine, et qui va parler de l'histoire, mais plus aussi de tous les succès qu'on a eu jusqu'à date et c'est quoi le plan pour le futur. Puis il y a aussi un représentant du Congrès des syndicats sud-africains qui va aussi donner une idée, parler un peu de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas. Puis aussi, il va avoir Arij Jaafari, elle est membre d'un groupe qui s'appelle Project Palestine, Free Project. Puis elle travaille sur la campagne de boycott avec les réfugiés dans la Cisjordanie. Donc on va avoir le panel d'ouverture. Ça c'est vendredi. Puis la conférence commence en fait vraiment c'est plus samedi. Donc vendredi c'est juste le panel d'ouverture et c'est public. Puis après samedi, on a des ateliers. Donc, pour les gens qui veulent savoir un peu plus, c'est quoi la campagne, qu'est-ce qu'on fait, l'histoire. On a plusieurs ateliers d'information. Donc, Apartheid 101, leçon de l'Afrique du Sud, lutte autochtone ici, puis une comparaison ici et la Palestine. On va avoir l'apartheid israélien comme un enjeu féministe. On va aussi avoir un atelier sur la résistance populaire de l'apartheid israélien. Et aussi, on va parler aussi, il y a un atelier qui va parler justement des investissements et investiguer les relations entre Canada et Israël. Donc, il y a plusieurs. Puis, le dernier, je veux mentionner, donc, c'est le soutien au BDS au sein de la communauté juive parce qu'il y a beaucoup de support maintenant qui augmente dans la communauté juive et même à l'intérieur d'Israël. En fait, il y a ça commence à prendre un peu d'appui. Donc ça c'est l'avant-midi de samedi. Après-midi c'est plus des ateliers, c'est qu'on a appelé ça secteur parce qu'on a diviser des ateliers en secteurs. Donc les gens vont avoir des discussions. C'est plus pour commencer à mettre un plan d'action, puis discuter qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut avancer avec la campagne. Donc c'est divisé en secteurs. Ça veut dire que les travailleurs et travailleuses vont avoir un atelier pour les syndicats. Il va avoir un atelier pour le secteur académique, un atelier pour le secteur culturel. Donc plusieurs secteurs, les gens vont être divisés selon leur secteur, puis ils vont discuter samedi après-midi et dimanche matin les plans d'action. Et puis après le dîner dimanche, on va avoir la clôture. Puis à la clôture, chaque secteur, il va avoir des propositions pour qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est ça. Donc on apporte la campagne pour la communauté québécoise, pour que les gens, on offre l'espace pour les gens pour apprendre c'est quoi la campagne, mais aussi pour mettre un plan d'action pour avancer.
Et merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, on rappelle le panel vendredi 22 octobre, vendredi prochain, à 19h. C'est à l'Université du Québec à Montréal, la grande salle, salle Marie-Gérin-Lajoie, qu'on accède directement en arrivant par le métro ou par le 405 rue Sainte-Catherine-Est, métro Berry-UQAM. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
انت الهابي مين 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 الهابي انت الهابي مين الهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين الهابي انت الهابي ماكلني وانا عايش ببلادي قتلني زي ما قتلت اجدادي اجل الخنون على الفاضي ما انت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بلادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر اكترية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربتني وبكيت سبقني واشتكيت لما ذكرتك انك بدين نصيت وحكيت مكتوب تخلي ولاد صغار المحجار من هم جاهل يدبوهم بالدار ايش كنه نسيت انه استحق ضب الاهل تحت الحجار وعلى الالم وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا حضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يهدي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه همة ومين انتو لسه امتى خبرتو اتصلوا عدا شتلتو عدا شتمتو امياتنا بيبكو ابياتنا بيشكو اراضينا بيخطفو انا بقولكم مين انتو انتو خبرتو بدلا احنا كبرنا فقر من كبر فوسع ومن كبر فجحر صار في داعي عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي انت ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خدي تاني كيف تتوقع مني اشكر لا تاني تعرف ايش انت قولي كيف دخياني راكع ركبي وايدي مربطات عيون بالارض وجثث زتتات بيوت مهدومه عائلات مشردات اطفال يتيمه حريه بكلبشات انت عمر انت قطر احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنصدر اهم شيء انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام ما هو دمنا دمك لا حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دم غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي مين 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 ارهابي انت ارهابي
هذه الارتكاز تتوه كلها
شوف الشجرة شوف مش حرام هذا كسروه حرام هذا عمره 200 سنة الشجر هذا 200 سنة كذا
C'était le groupe palestinien Dame avec la chanson « Qui est le terroriste ?» Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
En bas à gauche. chronique culturelle.
En Cisjordanie, la période de récolte des olives est par tradition un moment festif. L'olivier, symbole ancestral de la paix, unit les peuples de la Méditerranée. Mais depuis quelques années, cette période s'est transformée. Elle ne laisse plus de place aux festivités. Les fermiers palestiniens de Cisjordanie sont attaqués lors de la récolte des olives. Cet épisode de la colonisation israélienne nous a été rapporté par Valérien Massotto, qui s'est rendu en Cisjordanie à l'automne 2009. Valérien Massotto est avec nous aujourd'hui. Il est photojournaliste montréalais et présente son photoreportage Palestine, la guerre des olives à la galerie Espace Projet 353 Villeray Est du 18 au 28 octobre 2010. Bonjour Valérien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a quelques questions à propos de cette photoreportage, exposition que tu fais. On voudrait savoir qu'est-ce qui a inspiré ce travail? D'où vient cette idée de présenter les conflits israélo-palestiniens, particulièrement les agressions contre les fermiers en Cisjordanie, sous l'angle de la photographie?
Déjà, le choix de la photographie, c'est un choix personnel, puisque moi, je pratique la photographie depuis une dizaine d'années, donc c'est quelque chose qui me passionne. Puis c'est la forme de journalisme que je trouve la plus expressive. Je l'accompagne tout de même de textes, mais je trouve que c'est... le vieil adage a raison, on dit hein, une image vaut 1000 mots. Et puis, souvent, c'est vraiment le cas. Et puis, ensuite, j'ajoute du texte qui permet de contextualiser, d'organiser, de resituer l'information. Puis, pour ce reportage-là, j'étais en Palestine parce que je trouvais que c'était une situation qui dure depuis des décennies. Enfin, c'est un endroit que j'avais envie de mieux comprendre. Je trouve que pour moi, le travail de journaliste est de comprendre quelque chose puis de l'expliquer aux autres. Ça peut s'apparenter à un travail d'éducation par moment. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller sur place. Et puis j'ai découvert assez vite ce problème qui se pose au moment de la récolte des olives. Ça m'a paru comme étant une situation très représentative, puis très symbolique et donc très forte à utiliser dans le cadre d'un reportage photo.
Bon, merci. Donc, tu parles des contextes et je voudrais, en parlant de ça, si c'est possible que tu nous présentes un peu les contextes de Cisjordanie lors de ton séjour. Peut-être nous donner plus de détails en quoi consiste cette guerre des olives dont tu parlais dans ton expo photo.
Oui, alors moi je me suis intéressé à quelques villages qui entourent les villes de Naplouse et de Ramallah. Et puis ce qui se passe, c'est que en fait à cette période de l'année, donc au mois d'octobre et novembre, c'est le moment de la récolte des olives. Cependant, autour des implantations israéliennes, autour des colonies israéliennes qui se trouvent en Cisjordanie. On a installé ce qu'on appelle des sortes de zones de sécurité. Donc ce sont des zones autour des colonies où les accès sont restreints. Cependant, ce qui se passe, c'est que dans ces zones, il y a des plantations d'oliviers qui sont là depuis des dizaines, des centaines d'années, qui étaient exploitées par les fermiers locaux, qu'ils sont toujours. Mais l'accès à ces zones, à ces champs, est devenu limité. Et puis, les colons, en tout cas une frange des colons qui est la plus extrémiste, s'est engouffrée dans cette brèche, puis profite du moment de la récolte dans ces zones limitrophes de leur colonie pour venir harceler les fermiers. Donc ça peut être soit des attaques verbales, soit des attaques physiques, ou ça peut être de venir récolter les olives, de venir couper les branches, brûler les arbres. Et donc ça, chaque année, depuis maintenant une dizaine d'années, c'est documenté et ça arrive de plus en plus. Il y a plusieurs centaines d'incidents similaires chaque année. Et puis le but ultimement est d'empêcher les fermiers de cultiver ces terres et puis d'étendre un petit peu la zone de contrôle de la colonie, quoi. Donc c'est vraiment utiliser un moyen de pression sur une ressource économique, l'olivier en l'occurrence, pour imposer sa marque sur le territoire.
Parfait. Est-ce que, en fait, ça fait déjà presque un an que tu es allé à cette région. Est-ce que la situation a évolué depuis ton séjour là-bas?
La situation évolue très peu. C'est quand même, bon, c'est toujours difficile de savoir à distance, mais disons que je suis en tout cas ce qui se passe dans les médias israéliens ou palestiniens, et puis dans les ONG de droits humains qui couvrent ça. Il y a par exemple de nombreuses ONG israéliennes qui s'intéressent à ce problème, puis qui prennent le parti des fermiers palestiniens. Et puis bon, ce que je lis dans les rapports, dans les articles datés de cette année, sont les mêmes qu'il y a un an, qu'il y a deux ans ou qu'il y a six ans, quoi. Donc il y a relativement peu d'évolution en pratique, quoi.
Oui. Et donc, revenons sur ton expo photo. Et en quoi consiste cette œuvre artistique, et quels sont les aspects de la vie des fermiers, du conflit et de la résistance palestinienne que tu nous as ramené à travers cette photographie?
Alors, l'exposition, moi, en tant que photo-reporter, j'ai vraiment organisé ça comme un reportage. Donc ça, c'est La guerre des olives, c'est un reportage que j'ai publié dans plusieurs journaux au Québec l'an dernier. Et puis j'ai trouvé que graphiquement c'était très fort, que donc il y avait possibilité d'en faire une exposition. Et donc là, l'idée pour moi, c'est d'immerger le spectateur dans un reportage, c'est-à-dire que c'est d'avoir une démarche finalement plus active de sa part, qui n'est pas juste de lire un article, de regarder un documentaire à la télévision, mais bel et bien de faire une démarche, de se déplacer dans une galerie, et puis dans cette galerie, de passer de photo à photo, de regarder les photos, de prendre le temps de lire les textes. Donc ce que je veux, c'est vraiment immerger les gens pour qui rentrent, en tout cas autant qu'on le peut en étant à Montréal, qui rentrent finalement dans cette problématique, dans ce conflit. Donc j'essaye de personnaliser, d'humaniser un petit peu des grands concepts finalement, comme le conflit israélo-palestinien dont tout le monde entend parler depuis des décennies, mais il y a peu de gens qui ont l'occasion de se rendre sur place. Donc c'est pour moi l'idée de cette exposition.
Bon, donc merci Valérien pour nous partager cette expérience, pour nous présenter à travers ces photographies et les conflits et les violences dont sont victimes les Palestiniens de Cisjordanie. Valérien présente son travail de photoreportage à la galerie Espace Projet 353 Villeray-Est. Ça a commencé le 15 octobre et ça finit le 28 octobre 2010. Et donc, vous êtes invité à visiter ce travail artistique. Merci encore, Valérien, et à très bientôt.
Merci beaucoup.
C'est ce qui complète une troisième édition d'En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. On vous rappelle que pour avoir plus d'informations sur les sujets traités lors de l'émission ou pour réécouter les entrevues et les capsules, vous pouvez vous rendre sur notre site web, en fait sur notre blog www.enbasagauche.wordpress.com. Alors, nous allons laisser les ondes au bel âge avec une chanson des Ogres de Barbac.
C'est la guerre, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir dans mes affaires, dans mon logement, dans ma suite. Il y aura deux, trois déserteurs, des polissons réformés qui chanteront à main au cœur des chants ukrainiens. Vous et là et là là. Et s'il y a révolution, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir l'habitation qui entoure ma suite. Il y aura de bonnes préparations, des cocktails façon maison, des tirs flammés, des lance-cœurs, des pistolets pour bonheur. Il ne faudra pas venir pleurer. Si à vous-même vous êtes tous faits, et que vous-même emprisonnés, on soit tous dans un chien. Et je vous préviens qu'il y a combat, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir en bas de chez moi, dans le jardin de ma suite. Les cheveux longs pour un moment, les slogans à tout moment. Faites l'amour le plus souvent, mais pas la guerre, évidemment. Il faudra
Au Venezuela, dans l'immense bidonville de Carapita à Caracas, plus de la moitié des 90 000 habitants ont moins de 30 ans et ils arrivent à peine à survivre. Des agents tentent de les recruter pour le commerce de la drogue et la violence est palpable. Le père Macao, missionnaire de la Consolata, veut procurer aux jeunes un endroit pour leur offrir des sessions sur les droits de la personne, les effets néfastes de la drogue, la liberté, la démocratie, la bonne nouvelle. Pour réaliser ce projet, le père a besoin de votre aide. N'hésitez pas à faire un don. Faites-le dès maintenant en composant le 514-334-1910, 334-1910.
Radio Centre-Ville vous invite à faire connaître davantage vos produits et services. Vous êtes en affaires et aimeriez cibler certaines communautés de Montréal? Rien de plus simple. Nous vous aiderons dans la conception de votre message publicitaire et dans la stratégie à adopter pour vous adresser aux communautés que vous aimeriez rejoindre. Nous leur parlerons de vous dans leur langue maternelle. Ce sera donc personnalisé et fort sympathique. Radio Centre-Ville est à but non lucratif et nos tarifs publicitaires sont tout petits. Pour de l'information sur votre publicité à Radio Centre-Ville, rejoignez Daniel au 514-495-8836, 495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de vous sur Radio Centre-Ville.
Vous avez une soif inaltérable de savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.